Voici donc le temps de l'Avent. Avant avec un E. Ce n'est pas le temps avant Noël avec un A. Ça va ? Alors, ce mot vient du latin adventus avec un E donc, qui signifie l'arrivée, celle du Messie, du Fils de Dieu que nous accueillons à Noël. Je vous ai perdu là ou pas en parlant latin ? Non ? Tant mieux. L'Avent est ce temps qui est donné pour notre foi et en Église pour nous préparer à la naissance de Jésus. Vous allez me dire, mais il est déjà né, il y a plus de 2000 ans, c'est déjà fait depuis longtemps, alors qu'y a-t-il à préparer ? Aujourd'hui, préparer une naissance, c'est apprêter un nid douillet, suivre des cours à l'accouchement, tricoter des petits chaussons, ranger des vêtements. Mais Jésus, lui, est né dans une étable, dans la misère d'une mangeoire, et loin de chez lui. Alors, comme préparation à la naissance, il y a quand même mieux. Mais pourquoi donc chaque année sommes-nous invités à préparer sa venue ? Nous préparer à la venue de Dieu sur terre, c'est nous préparer spirituellement à l'accueillir au plus profond de nous. L'Avent, c'est le temps de l'accueil. Nous croyons que depuis que le monde est monde et que la création et tout ce qu'elle contient a été donné en partage aux êtres humains pour que nous en prenions soin, nous croyons que Dieu suscite la rencontre auprès de chacun pour lui offrir la vie. Ainsi, dans nos quotidiens bien huilés, nous croyons que Dieu vient encore nous visiter. Le plus délicat pour nous reste de le reconnaître et d'apprendre à l'accueillir dans le cœur de nos vies. L'Avent nous invite alors à repenser cet accueil, Jésus le Christ, qui se manifeste dans nos existences. Dans la Bible, il arrive à Dieu de se manifester auprès de ses créatures dans l'extraordinaire. Par exemple, face à Moïse. Quand est-ce que Dieu se manifeste dans quel épisode de la Bible ? Face à Moïse d'une façon extraordinaire dans le Merci. Dans le buisson ardent. Dieu apparaît à Moïse dans la flamme d'un buisson. Donc ça, c'est extraordinaire. Ou encore, dans le Nouveau Testament, cette fois sur le chemin de Damas, face à Saul de Tarse. Est-ce que vous savez qui est Saul de Tarse, les jeunes ? Après, il va changer de prénom. Et il va s'appeler Paul. Dans cet épisode, écoutez bien, une lumière venue du ciel le plaque à terre et une voix l'interroge, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et puis il y a eu encore du temps du ministère de Jésus, tous ces miracles que Jésus a pu faire. Mais dans la Bible, il arrive aussi à Dieu de se manifester de façon beaucoup plus discrète, presque imperceptible, comme avec le prophète Élie, désespéré. Élie est dans une grotte. Il a envie de mettre fin à sa vie. Et il va reconnaître Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des adultes qui connaissent ce passage ? Dans quoi Élie va reconnaître Dieu dans un souffle léger. Le terme hébreu est assez difficile à traduire, mais de façon très poétique, on peut dire que Dieu se manifeste dans le bruit d'un silence. Dieu s'invite dans nos vies quotidiennes. Il en est ainsi dans cette histoire du livre de la Genèse que nous avons entendue. À la suite de ce que j'ai lu, nous comprenons qu'à travers ces trois visiteurs, c'est Dieu qui visite Abraham et sa femme qui s'appelle Sarah. Il le visite lors d'une journée comme une autre, sous l'apparence de ces trois visiteurs qui se tiennent près de lui. Abraham veille. Il lève les yeux au loin quand les visiteurs arrivent. Et le texte nous dit qu'il va courir vers eux. Abraham, lui, ne va pas reconnaître Dieu tout de suite dans ses visiteurs. Mais il va d'abord exercer l'hospitalité, comme il en est d'usage à cette époque. Est-ce que vous avez retenu qu'est-ce que c'était d'exercer l'hospitalité dans le texte ? Il y avait des choses qu'on ferait nous, comme préparer un bon repas, mais il y avait d'autres choses un peu plus bizarres qu'on ne fait pas, nous. Laver les pieds, voilà. Ça, c'était une coutume, c'était une façon d'accueillir quelqu'un. Abraham, donc, accueille ces étrangers dans son quotidien et leur donne de quoi se reposer un instant. Accueillir Dieu, c'est se laisser déranger dans nos habitudes. C'est faire de la place dans son emploi du temps trop serré. Comme vous le faites aujourd'hui, tous, en venant au culte. Accueillir Dieu est une disposition du cœur, un choix réfléchi, une disponibilité pour écouter celui qui vient. Comme ce matin, vous écoutez sa parole. Accueillir, c'est se tourner vers l'autre, quel qu'il soit, pour y trouver Dieu. Et accueillir est aussi une fête. En accueillant ses visiteurs, Abraham va comprendre le sens de la promesse de Dieu pour lui, que Dieu lui avait dit il y a quelque temps auparavant, « Tu seras le père d'une grande nation ». À travers l'image de ces trois hommes, pèlerins du désert, qui se présente chez Abraham assoiffé et affamé, Dieu vient vers lui comme celui qui a besoin de nous. Ainsi, accueillir l'autre, celui qui vient vers nous dans le besoin, c'est accueillir Dieu lui-même. Dieu prend la forme de nos vies pour venir à nous. Il a besoin de nos mains pour travailler. Il a besoin de nos jambes pour avancer, de nos visages pour sourire. Il a besoin de nous pour que son royaume soit annoncé. Et Jésus dira lui-même dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Je vais vous lire les versets 35 à 40. C'est Jésus qui parle à ses amis et à tous ceux qui sont là pour l'écouter. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors, ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons donné des vêtements. Tu étais malade ou en prison et nous t'avons visité, mais quand donc ? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. » Savons-nous voir dans cet homme couché dans la rue le visage de Dieu ? Reconnaissons-nous en cette jeune fille arrivée au collège de l'étranger le visage de Dieu ? Pensons-nous à cet ami, malade et épuisé à l'hôpital, comme étant habité par Dieu lui-même ? Alors non, c'est sûr, notre Dieu n'est pas un super-héros. Loin du costume reconnaissable, Jésus peut se manifester à chacun par les visages des plus petits et des plus misérables d'entre nous. Né dans une mangeoire froide et nauséabonde, mort sur une croix, rejeté de ses amis, Jésus a même tout du anti-héros. Et pourtant, quel miracle ! Combien de vies renouvelées ! Un super-héros agit seul, et il ne peut compter que sur ses super-pouvoirs. Jésus, lui, a besoin de nous. Il nous invite à agir nous-mêmes. Il nous met en route pour que nous soyons ses mains, ses jambes, son sourire. Jésus nous révèle notre identité véritable et bénie. Un super-héros n'a rien à apprendre. Les super-pouvoirs ne se transmettent pas. Jésus, lui, a tout à nous enseigner. Pour celui qui accepte de se laisser guider, une vie à sa suite est promise. Jésus, né sur terre il y a plus de 2000 ans, n'est pas venu pour nous épater. Il est venu nous apprendre à aimer. Sa bonne nouvelle n'est pas une baguette magique, elle est don de vie renouvelée. Sa parole n'est pas une formule de grimoire, elle est lumière qui perce nos ténèbres et souffle léger qui brise nos solitudes. Oui Seigneur, tu n'es pas un super-héros et tu es bien plus que cela. Lorsque tu as choisi de te faire le plus petit parmi nous à Noël, tu t'es donné sans compter par amour, en nous invitant à être à tes côtés. Et depuis, pour toutes celles et ceux qui te donnent leur confiance et te suivent, nos vies en sont transformées. Que ce temps de l'Avent nous apprenne à attendre dans la joie et nous conduise pas à pas dans cet accueil du Dieu en nous et parmi nous. Amen.